êtes sur Radio U, on est sympa, on a rembobiné. C'est du replay.
Radio U, ça se sent à l'intérieur.
Et ça se voit à l'extérieur.
Radio U, bonheur, plaisir.
C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez C'est vous qui le dites sur Radio U. Vous savez, votre quotidienne d'info locale et citoyenne sur le 101.1. Aujourd'hui, je vous embarque faire du yoga, nous replonger dans les trans musicales parce qu'on a vraiment trop kiffé et puis parce qu'il n'est jamais trop tard pour parler de la saison culturelle de nos salles préférées, me revoilà mi-décembre avec celle du Macorlan. Pour commencer, retournons un peu en arrière avec l'interview du duo Lada Niva que Max et moi-même avons eu la chance d'interviewer jeudi dans le cadre, comme je disais, des trans musicales à Rennes. Juste pour le plaisir de vos oreilles et puis des miennes aussi, parce que c'est quand même le pied, je vous propose de les réécouter.
Radio Campus fait ses transmusicales
de 17h à 19h.
Interview, reportage, chronique et mix live.
Bonjour Jacqueline Bagdazarian, bonjour Louis Thomas.
Bonjour.
Vous êtes le groupe Lada Niva, un groupe multiculturel. Jacqueline, vous êtes chanteuse. Louis, vous êtes à la trompette, à la flûte et à la guitare. Vos influences, ça va du jazz à la folk arménienne en passant par des mélodies du Moyen-Orient. Et vous avez fait le choix de ne pas vous restreindre à un genre particulier. En 2020, vous étiez déjà au transmusical, mais dans une version un peu plus numérique, hein, même carrément numérique. Ouais. Cette année, vous revenez en présentiel avec après une tournée en Arménie et puis un peu partout en Europe. J'ai vu au Portugal, en Espagne, et puis aussi en France. Vous êtes heureux et heureuse de découvrir votre public ?
Oui, parce qu'en fait, à la base, c'est ça qu'on aime faire. Et après, on était triste de ne plus pouvoir faire, en fait. Et surtout avec le projet qui vient de naître. Et dès le départ, en fait, on n'a pas pu voir notre public. C'était seulement les vues sur YouTube. Et c'était cool aussi d'ailleurs faire la trans musicale, on était contents qu'ils ont été programmés. Mais ouais, ça nous manquait quand même le public. Et cette année, c'est cool qu'on va enfin voir le public de trans musicale.
Ça va être génial, ouais. J'en suis sûre.
Alors, votre première tournée cette année, c'était en Arménie ?
En fait, en Arménie, on a fait deux concerts. Donc, c'était pas vraiment une tournée en Arménie, mais c'était le premier concert de notre tournée de cet été. Et puis, on a commencé à faire partout en France et on a fait, ailleurs aussi.
Et est-ce que c'était un choix symbolique que ce soit le premier ?
Bah, c'est surtout qu'il n'y avait pas encore de concert en France, quoi. Du coup, en fait, je crois qu'on a joué peut-être d'abord au Luxembourg, dès que ça a ouvert.
Ça,
ensuite, l'Arménie. En fait, les pays qui ont ouvert les premiers.
Ouais. C'était un peu un retour triomphal, le concert en Arménie ? Parce que vous êtes très suivi par la communauté arménienne autour du monde.
C'était la première fois que moi je suis revenue en Arménie et je suis revenue avec un concert et c'était un truc de fou. J'étais tellement pas réalisée de tout ce qui se passe et après seulement en voyant la vidéo qu'on a fait, je me dis c'était fou.
Un petit mot sur votre parcours. Vous vous rencontrez lors d'une session de jam dans une boîte de jazz à Lille en 2019. Et puis Jacqueline, tu impressionnes Louis avec ta super voix. Et vous décidez de monter un projet ensemble. Vous sortez deux clips musicaux en 2020 sur Internet pendant le premier confinement. Alors ça va être la question Covid, hein, faut bien qu'il y en ait une.
Ouais.
Est-ce que vous pensez que vos morceaux avec cette esthétique colorée, ensoleillée, carrément exotique, vous pensez que ça a répondu à un besoin qu'avaient les gens à ce moment-là d'évasion et que ça vous a boosté ?
En fait, on s'est rencontrés plus tôt qu'en 2019. On s'est rencontrés il y a 6 ans peut-être déjà. 5-6 ans et puis en fait on n'a pas trop réfléchi de faire un truc joyeux parce que les gens ils sont tristes ou
non c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi mais peut-être
non, j'imagine que non mais
peut-être qu'il y avait plus de monde qui squattait internet à ce moment-là pour le coup.
Non mais en même temps notre premier clip on avait sorti avant le Covid en fait donc c'était
juste avant
bon.
Ouais, un sacré rayon de soleil. Même toujours maintenant, c'est toujours des rayons de soleil vos clips.
Oh merci, c'est mignon.
Alors moi je vais poser la question album, parce que je pense que tout le monde attend un peu ça, et au Festival du Bout du Monde cet été, vous disiez que vous alliez travailler ça cet automne. Alors ma question c'était, où est-ce que vous en êtes? Peut-être question tabou.
Non, c'est pas tabou, hein. Bon en fait on est un peu...
Sans pression. Hein.
Comment dire, bah, on travaille dessus et on prévoit le sortir l'automne prochain. Et là, on va être en plein enregistrement à partir de la semaine prochaine. Donc ça bosse, hein.
C'est un peu une contrainte de faire un album, c'est parce qu'il faut le faire ou il y a une envie?
Ouais, c'est un peu... Ouais, tout le monde s'attend à ce qu'on fasse un album. Bon, bah, on va faire un album. Mais nous, c'est vrai qu'à la base, on aimait bien sortir des sons de manière un peu plus impulsive, quoi.
Ouais.
Un morceau.
Un morceau clip.
Et puis avec l'été, là, c'est vrai qu'on a enchaîné plein de dates, et qu'on n'avait plus le temps de faire ça. Du coup, là, on va se poser un petit peu pour tout faire d'un coup.
Dans une autre interview, je t'ai entendu dire, Jacqueline, que Louis t'avait un peu fait découvrir son approche de la musique comme moyen de communiquer, de partager, de rencontrer du monde.
Ouais.
Et si c'est le cas, quelle était ta perception de la musique à toi avant et maintenant ?
Je ne sais pas exactement le changement précis, mais avant en fait j'écoutais la musique classique quand j'étais petite, et puis j'ai commencé à faire du jazz, j'ai écouté beaucoup de tout ce qui se passe par exemple sur télé, la radio, mais c'était tout, je prenais tout ce qui se passe un peu sur surface, j'ai jamais vraiment allé dans une profondeur de choses. Et en fait, avec la rencontre de Louis, j'ai découvert déjà le Maloya de l'île de la Réunion. Et puis aussi, j'ai plus commencé de m'intéresser à la musique traditionnelle en général, même si je connaissais déjà la musique arménienne et tout. Et puis, la façon aussi de composer et des mélodies de Louis, ça me plaît beaucoup. Et je trouve ça vraiment... très profond et très beau, et ça met un grand échelle pour moi de good musical en fait aujourd'hui.
Et justement la composition de Louis qui est en train de dessiner un petit peu, il fait aussi du montage vidéo, il fait beaucoup de choses, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les clips où vous faites venir aussi vos amis.
Ouais,
vous faites participer tout le monde. Au niveau de sur scène, comment ça s'organise au niveau de votre orchestre, au niveau, en parlant d'orchestre, mais au niveau de voilà, les gens qui vous accompagnent et qui forment le groupe avec vous?
Eh ben, on a deux équipes. On a une équipe où on est 7 sur scène et une équipe où on est 4. Et c'est des personnes différentes, quoi. Les seuls en commun dans les deux équipes, c'est Jacqueline et moi. Et ben voilà, c'est vraiment que des amis rencontrés au fil des années, au fil des projets, des collaborations. Et puis voilà, on a fait une synthèse un peu des meilleurs potes musiciens avec qui on aime bien passer du temps et jouer.
Ça fait un feeling musical très différent selon les deux formations ?
Ouais, c'est quand même différent, mais c'est les mêmes morceaux. Et puis il y a toujours... c'est nos morceaux, nous on est là et... Du coup, c'est quand même...
C'est différent, mais en fait, l'esprit, il est là. Je veux dire qu'il y a un peu le partage, chacun a sa place, en fait, dans le groupe. Et
nous, on adore faire les deux.
Ouais.
Un mot sur une de vos inspirations. Vous disiez pour Radio Nova, vous ne l'avez pas dit, vous l'avez fait, vous avez repris un morceau de Komitas. Ouais. Et Komitas, qui était à la fois un compositeur, c'est vrai, mais aussi beaucoup un collecteur de musique, un rassembleur, qui a parcouru un peu beaucoup la région arménienne, qui a pris marque de beaucoup de musique traditionnelle, des danses aussi, qui a réuni ça, qui les a diffusées. Est-ce que c'est un peu ce que vous faites aussi, de perpétuer cette tradition arménienne, folklorique?
En fait, je le fais, mais je prends plus loin de l'Arménie. En fait, je prends tout ce que j'essaie d'Arménie, toutes les danses, tous les rythmes que j'ai absorbés depuis que je suis petite, les mélodies, les chants traditionnels, et en fait je les vois et je les mélange avec d'autres choses que j'aime, des traditions de deux autres pays, et en fait j'hésite pas de mélanger parce qu'en fait ça serait bizarre de garder que prendre quelque chose de traditionnel arménien et faire la même chose de traditionnel arménien. Je veux dire que ça reste sur place, quoi. Et en fait, je trouve que plus on mélange, plus ça, bah, ça s'ouvre, ça avance. Et en fait, c'était ça à la base, tout ça, en fait, jusqu'à aujourd'hui. La musique traditionnelle, c'était toujours mélangé.
Avec... C'est toujours en mouvement, ouais. C'est dynamique, quoi.
Et quand tu écris tes musiques, est-ce que tu as des inspirations ou un rituel que tu fais quand tu as une idée qui te vient? Qu'est-ce que tu fais pour le mettre en œuvre?
Parfois, quand il y a une mélodie, il y a une idée qui m'arrive, même juste, en fait, il y a tout qui arrive. Il y a même le clip qui j'imagine directement, le sujet. Comment est-ce que les gens, ils vont voir ça? Qu'est-ce que je veux dire dans cette chanson? Et parfois, juste, il y a la mélodie qui arrive, que j'aime bien. Et puis, je m'assois et je cherche les accords. Et voilà, il n'y a pas vraiment une seule façon de avoir ça. Ça arrive différemment. Parfois, je regarde la télé ou je parle avec quelqu'un et il y a une mélodie qui arrive dans ma tête. Je veux dire que je ne cherche pas toute l'inspiration, quoi. Ça arrive comme ça.
Toi, Louis, tu n'écris pas, à part le texte, pourquoi tu as fait ça?
Ben si, je fais des tentatives, mais le texte pourquoi t'as fait ça, c'est le seul qui a été validé par Jacqueline jusqu'à maintenant. Mais enfin non, là elle m'en a validé un deuxième qu'on partage.
En même temps, tu finis jamais tes textes, là au moins t'as fini.
Oh merci, c'est gentil.
Votre musique a tendance à être vachement...
En fait, j'ai renversé le café.
Personne n'a vu, personne n'a
vu. Ouais, bien sûr, maintenant tout le monde sait.
Tu inaugures. Il y a un morceau qui contraste avec votre esthétique très solaire, très joyeuse, qui a un son vachement plus rap et des paroles un peu plus sombres, avec une esthétique dans le clip de guerre et de violence. Est-ce que ça a été écrit dans le contexte du conflit au Karabakh ou...
Oui, c'était inspiré par ces événements. Mais en fait, Louis, il avait déjà écrit cette musique il y a quelques temps, juste avant tout ça. Et en fait, moi, je trouvais que c'est parfaitement, ça va bien avec l'ambiance qu'on aimerait bien faire. Et j'avais trop besoin d'écrire quelque chose et marquer cette période. Je me sentais obligée, en fait, pour mon état mental et sentimental, en étant faire partie de ces pays. Et je sais pas, c'est pas peut-être bien expliqué, mais j'avais besoin de dire quelque chose, ne pas juste laisser ce temps passer et dire voilà, c'était encore une fois la guerre et ça va partir. Bah, du coup, en fait, moi, j'ai écrit ce texte là et c'était vraiment ce que je pensais. Et l'esthétique, bah, en fait, on n'a pas cherché, parce qu'on aime bien des différentes esthétiques. Et celui-ci, vu que je pouvais mieux exprimer une colère, bah, on trouvait que ça marche bien, quoi.
Il y a une reprise de l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, je trouve complètement incroyable, qui est vraiment très très belle. Est-ce qu'on peut s'attendre à une reprise de Aznavour, qui est du coup français, mais aussi une énorme fierté arménienne?
Ouais, je sais pas, il y a tellement de gens qui demandent Aznavour que j'ai envie d'aller contre le contre-sens.
Je comprends, ouais, je ferais peut-être pareil.
Mais en fait, c'est vrai que cette version, bah, c'est Louis qui a fait l'arrangement, que je trouve que c'est ça qui apporte, en fait, parce que ouais, je chante.
Tu chantes.
Ouais, ça va, je chante. Ouais.
C'est complètement différent, vous l'avez réinventé.
Moi je trouve. En fait, en plus, lui, il a fait avec plusieurs chansons traditionnelles arméniennes, comme il y avait une chanson Sareri Hovelmerne, bon bref, c'est trop compliqué le nom. En fait, il a écouté juste le chant sans musique, c'était un a cappella. En fait, le soir, il a dit Jacqueline, j'ai trouvé les accords. J'arrive et là, il me joue des accords. Je dis mais il part dans tout, dans les endroits où j'ai jamais cru pouvoir aller, en fait. Et c'est cool, hein. Je parle à ta place, allez, ciao.
J'avais une dernière question pour finir sur quelque chose d'un peu plus léger. Je pense que Louis, tu as déjà répondu à mes questions. Ma question, c'était qu'est-ce que vous faites si vous ne faites pas de musique? Et là, je te vois dessiner. Est-ce que c'est ta passion autre que la musique?
Ouais, j'aime bien dessiner.
Cette liste.
Après, on a vraiment plein de passions. Avec Jacqueline, on a une récente passion pour le badminton.
On n'a pas trop de temps, mais en fait, je suis chaud. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit badminton, je suis là.
Ouais, on a vu ton regard s'illuminer d'un coup, là.
Hop, je suis là. Hein.
Bah, merci beaucoup.
Ouais,
en tout
merci
cas,
à vous.
Jacqueline
merci
et Louis. Beaucoup. Et puis, bah, bon festival ouais,
bon
en live cette fois.
Ouais.
On est trop content de vous voir. Ça va être cool.
Ouais.
Avant de continuer notre quotidienne et de passer à notre prochain sujet, on va faire une pause en musique avec la Daniva, forcément. Parce que ce sont les lois du direct et que notre prochaine invitée n'a pas pu arriver jusqu'à nous, on va légèrement bouleverser notre programme en remplaçant l'interview de Patrice Koum, qui est directeur et programmateur pour la saison culturelle du Macorlan, par une autre interview, celle de l'artiste Shined O'Brien, qu'on a eu la chance d'interviewer samedi lors des transmusicales. Et vu que vous n'aviez pas eu encore la chance de la voir en rediffusion, c'est cadeau pour vous ce soir.
Radio Campus fait ses transmusicales
de 17h à 19h.
Deux heures d'émission en direct du village des transmusicales de Rennes.
Shined O'Brien est une artiste irlandaise au talent pluriel dont on ne peut pas douter, surtout quand on écoute ses textes d'une justesse poétique transcendantale. On pourrait penser que son style qualifié de post-punk est sombre, mais si on y regarde de plus près, elle parle de la vie avec humour et ironie. Elle est d'ailleurs une personne pleine de surprises et c'est ce qu'on va découvrir avec elle ce soir. Ma première question, lors d'une interview pour NME, tu décris ta musique comme étant à texte, entraînante et élastique. Qu'entends-tu par élastique ?
So in an interview for NME, you describe your music as being elastic, lyrics-based and driving. And wondering what you mean by elastic.
I love this question. Yeah, it's perfect. I mean, I still feel like this. Elastic in the sense that the words can take many different forms. I mean, I think that's how I quantify a piece of good writing. It can go on top of several different modes, you know? So, yeah, there's also a great song by The Fall called Elastic, How I Wrote Elastic Man, and it always reminds me of that. It feels like you have something firm and solid, but yet it's a bit chewing gum, you know? You have this, like, there's this tension that holds it together, but you've got the possibility to put it in several different arenas, and that's kind of where style comes into it.
Alors j'adore cette question, c'est que les mots peuvent prendre plein de formes, un thème, un topic peut couvrir plusieurs émotions, peut changer en fonction des humeurs, c'est très modulable, c'est un peu comme du chewing-gum et c'est quelque chose avec lequel on peut beaucoup jouer.
Alors tu as passé une année entière à dire oui à tout, pourquoi tu t'es lancé ce défi? Est-ce que c'était une manière pour toi de trouver de l'inspiration?
So you spent a whole year saying yes to everything, or most everything. So why the challenge? Is it a way to find inspiration?
Yeah, totally. I mean, I still do this. I don't say yes to everything. I'd be in so much trouble. so much. It's more like a mindset. It keeps myself in check. It's kind of, you know, taking things on board, inviting opportunities, and doing things I wouldn't ordinarily do in order to just like shake myself up and kind of, let new things in. I mean, I'm always really aware not to let things stagnate or get into too much of a comfortable place, because that's, you know, the writing, it needs that kind of new life always being breathed in.
Alors complètement, et puis je fais d'ailleurs toujours ça, enfin j'essaie de pas trop le faire parce que ça m'a amené des ennuis. C'est une manière de s'ouvrir à des nouvelles perspectives, de laisser de nouvelles choses entrer dans sa vie, de sortir de sa zone de confort, de se secouer un peu, et donc ouais, complètement lié à la création.
Quand tu étais à Paris pour finaliser tes études de mode, tu dis avoir écrit des poèmes dans des cafés qui te faisaient rire. Qu'est-ce qui t'a fait changer et où évoluer vers ce que tu écris maintenant, qui est plus tourné vers une ironie plus mordante, si on peut dire.
So when you were in Paris during your studies in fashion, you would spend time in cafes and write poems that would make you laugh. So how did your writing evolve from this towards a more something darker and more ironic and more biting?
Yeah, that's true. I was thinking about this recently. Like at the beginning, there was definitely some humor in there. I think it was because the reason I did start writing in the first place was I was in Paris without some of my best friends, and I kind of wanted to capture like these miniature scenes that I was like watching, and so like the humor was more like connected to how I relate to my close friends. So the humor was in the first iterations of the poems. I do love a good sense of humor, and I mean I relate through humor primarily actually with people and connections. But yeah, in my writing now, I guess that's not such a crucial element. It's more thematic, or, you know, that's not like my mode of communication, or it's not my only mode of communication. Things have changed. I still write in cafes, definitely. I'm a cafe girl.
J'y pensais récemment. Alors, il y a toujours eu de l'humour dans l'écriture. En fait, quand j'étais à Paris, j'étais seul. Et c'était un moyen de capturer des scènes. En fait, j'étais sans mes amis. Et c'est un moyen de capturer des scènes et d'avoir cet humour, de me connecter comme ça à mes amis. En fait, l'humour a toujours été important comme manière de, comme mode de relation avec les gens et avec mes amis. C'est moins crucial maintenant, c'est pas mon mode de connexion principal avec les gens, mais c'est toujours une partie de l'écriture. Et par contre, j'écris toujours dans les cafés, ça c'est sûr.
Il y a une imagerie d'un temps cyclique et de la répétition, très forte dans le clip de Girl Kind, réalisé par Saskia Dixie. Dans ton écriture, quel est ton rapport au temps?
So there's a strong imagery of a cyclical conception of time and of repetition in the video for Girl Kind, directed by Saskia Dixie. What's your relationship with time in your writing?
It's probably my favorite theme, actually, to write around. And I love like writers who do focus on time, so a lot of my inspirations would be like T.S. Eliot, Samuel Beckett, who bend time and kind of distort it and kind of think of time outside of time and like time past time, not necessarily end of world or, you know, these kind of things, but even more extra than that, another space. My relationship to time, I wouldn't know how to put it in one word, but I think it's something I've just, like, the individual's relation to time and how time passes and changes, how things slow up and speed down. You know, in this last year of lockdown, last couple of years, I mean, everybody can vouch for that. Like, you know, the feeling of time passing has become such a texture, like, that throughout our days. So yeah, it's never boring, really, for me. I just keep going back.
Alors c'est vraiment un de mes thèmes préférés. D'ailleurs, ça dans mes inspirations littéraires, il y a beaucoup de Samuel Beckett, de T.S. Eliot, des auteurs qui explorent cette relation au temps. Alors, c'est pas une question de fin du monde, c'est vraiment la conception du temps comme une dimension. C'est difficile à expliquer, c'est ce changement et puis cette relativité du temps qui passe de manière différente sur les moments. D'ailleurs, on l'a tous vécu cette dernière année avec les confinements et ça a été très fort. Mais c'est toujours un thème très stimulant pour moi.
Alors, tu as dit dans une interview que tu devais en permanence trouver un moyen de te déraciner et de faire dévier ton chemin de vie. Et je me demandais si tu avais été influencé par Du Bellay, qui est un peu le poète déraciné par excellence, et son recueil de poèmes écrit à Rome, surtout avec un titre comme Roman Runes.
So you said in an interview that, quote, you always have to find ways to uproot yourself and disturb your life path. And we were wondering if you were influenced by Du Bellay, who's sort of the ultimate uprooted poet, and the collection of poems that you wrote while in Rome, especially with your title, Roman Ruins, or not at all?
Oh, wow, not at all. I will have to ask you again for that reference, because I don't know who that is. Who?
Someone who thought about time a lot as well.
Wow, okay.
So a 16th century poet.
Okay, can you write that down? I need that.
Of course, I will.
I'm going to need that for the album.
C'est une référence que je ne connais pas du tout, mais il faut que vous me donniez, je vais en avoir besoin pour l'album.
No, not at all. When I was writing Roman Ruins, I was uprooting myself regularly, and I was moving houses all the time, and I was living in this mansion with 50 people who I didn't know. So there is a sense of impermanence, coming and going, door slamming, changing. It was quite theatrical in a way. It was like there was different actions taking place in all of the, you know, out of all of the four walls that surrounded my bedroom. It was even on stilts, so it was like the wind was underneath me. There was like nothing touching my room, like a box. So that was kind of what inspired that piece. But
Ce qui a inspiré Roman Ruins, c'était c'est une période où je me déracinais beaucoup. J'ai beaucoup déménagé, puis j'ai vécu dans un endroit où il y avait beaucoup de monde. Il y avait 15 personnes dans la même maison, et autour de ma chambre, c'est comme s'il y avait du vent avec toute cette activité. C'est un peu ça qui a inspiré cette idée de déracinement dans la chanson.
Tu parles du temps où tu étais à l'école, et ce que tu écrivais était mal accepté car considéré comme trop rebelle et farfelu. Est-ce que pour toi c'était contraignant comme sentiment, ou ça t'a rendu plus forte?
So you recall being in school and your writing not fitting in because it was considered too rebellious and far-fetched. Was it something that made you feel constrained or empowered, and something that made you stronger?
I was always shocked, you know, like with not getting the grade that I had pictured in mind. But really, I mean, the way that they taught English in school, I'm talking about secondary school, so the age of like, you know, 15 or 16, when you're coming into your own, you're finding your identity. And yeah, my writing was probably quite excessive and flowery, and I loved Oscar Wilde at that time, and I would go and see plays all the time. I went to New York and wrote about that. Like, I'm sure there was just way too much, but, you know, it should have been encouraged, if anything, because I was kind of just, I didn't understand, you know, how, like, why it could be met with such a brutal kind of wall or shutdown. And I realized that, okay, you just need to understand the system to do well in school. So anyway, if I like writing, I'll just go and write some fiction. And I did start doing that with a friend of mine. We just started to invent stories about the priests who ran the school.
Alors j'ai toujours été choqué par ça. De pas avoir les notes que j'imaginais quand j'écrivais. C'est l'époque où j'avais 15-16 ans, où on commence à trouver son identité. Alors c'est vrai qu'à l'époque, mon écriture était un peu excessive, assez fleurie. J'étais inspiré par Oscar Wilde et par les pièces de théâtre que j'allais voir à New York. Et ce genre d'écriture a dû être plus encouragé. Je ne comprenais pas cette fermeture. Et finalement, j'ai compris qu'il fallait juste s'ajuster au système. Donc on s'est mis à écrire des fictions. C'est comme ça qu'on a commencé à écrire des fictions sur les prêtres de notre école.
Merci beaucoup à tous les trois. Thanks a lot.
Thank you.
À quand le premier album? Do you work on the first album?
Yes.
Okay.
Yeah, it's under wraps, but I've been in the studio for like quite a few weeks now. So yeah.
Okay. So soon.
You'll see.
You're excited, anyway. On
verra.
It's all about time again. Thank you so much.
It'll be there. Thank you so much.
En tout cas, entre Dan qui voulait faire le tourneur pour Louarane tout à l'heure et vous maintenant qui donnez des influences à Sinéad O'Brien pour ses prochains titres, Radio Campus à fond. Merci à tous les trois et on va écouter Sinéad O'Brien, bien sûr, avec Fall With Me tout de suite.
This is an ode to the most basic city. This is the eulogy to the state I adore. Fall with me. Fall with me. Fall with me. Fall with me. You can't imagine the state that we're in. You can't imagine any reason for the state that we're in. This modern condition, it comes closing in. You can't imagine the state that we're in. The cheapest religion is this modern condition. Too many minds on the beat. They told me to be specific. This is an ode to the most basic condition. Fall with me. Lullaby in reverse, let the lullaby revert, subvert your feelings. A shock comes as a cleaning, fall with me. Day one, after the snow, the spring made a giant leap to faith. And the city breathes again, basic city. It's just one place to be on the head carousel. State that we're in, skyscrape against. You can't imagine any reason. Raging carousel of seasons. Imagine it's the direct result of our actions. Something like tragedy. Is this what it feels like to speak too freely? Is this what it feels like to be too specific? If this is sleeplessly dreaming, tell me. Spokes of the wheel and what she said, perpetually in motion, involuntarily floating. I don't want to win anymore. Less is less. More is much more than too many minds on the beat. They told me to be specific. This is an ode to the most basic condition.
Vous écoutez toujours, c'est vous qui le dites, sur le 101.1 de Radio U. C'était Fall With Me de Sinéad O'Brien. Et tout de suite, je vous propose d'écouter le premier épisode de la série On a testé pour vous. Cette semaine, je vous emmène découvrir le cours de yoga du mardi soir, dispensé par Marjorie Cadoré et proposé par la PEPS. Le cours a lieu au foyer B de la Cité U de Kergouat. Ne soyez donc pas étonnés que la machine à café fasse fond sonore. Assez parlé. Inspirez. Expirez. Position du guerrier. C'est très physique. Je pensais pas, mais le yoga c'est super. On est actif. Alors que je pensais que c'était plutôt statique.
Et j'ai trouvé ça cool parce que je sentais des trucs passer dans mes mains et c'était chouette de sentir l'énergie passer, les manques d'équilibre et tous les muscles qui se mettent en place. Ah ouais, ah oui, oui, je fais déjà chez moi, j'adore le yoga, je trouve que c'est une super pratique. essayer de...
Alors, ce que je souhaite transmettre...
Marjorie Cadoré, professeure de yoga.
Bah, ma passion pour le yoga, c'est une belle pratique, en fait, autant sur le corps que l'esprit. Tout le monde joue le jeu, peu importe si on est souple ou pas.
Je sens que je travaille des muscles, que j'ai pas l'habitude de travailler. Je sens que je commence à souffrir de la position, là. Oh, et de la planche, encore. Ah, le vinyasa, je connais pas. On contrôle la descente. Je me verrais bien, coach sportif. Et le cobra, tout le monde connaît le cobra. Je trouvais déjà dur le guerrier 2, mais alors le guerrier 3, je suis pas prête. Ah, j'ai réussi, je suis fière.
Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs styles de yoga différents. Alors le yoga qu'on pratique le mardi soir en CTU, c'est un vinyasa yoga. Donc le vinyasa yoga, en fait, on va enchaîner des postures au rythme de la respiration, ce qui va faire un peu comme une danse ou une méditation en mouvement. On va rechercher en fait l'enchaînement, le mouvement, toujours en lien avec le souffle.
C'est vraiment en fait de l'étirement du corps, mais de toutes les parties du corps. Et ça peut faire beaucoup de bien, je pense, après une journée de travail comme moi j'ai eu aujourd'hui. En fait, je libère tout, toutes les tensions du corps. Je vais peut-être m'inscrire. Ça engage vachement les différents muscles. C'est bien parce que je commence à connaître les mouvements, du coup j'appréhende un petit peu ce qu'elle compte faire, donc je perds moins de temps à m'installer et à réaliser la position. Je crois que le chien tête en bas, on l'a fait au moins 100 fois. Et on vient tirer les jambes là. La pose du bâton. Tout le monde connaît ça. C'est quand on est assis, jambes tendues, et qu'on vient chercher ses orteils.
Tous les mardis, 18h et 19h15. Donc le cours de 19h15, il est complet. On est 15. Il y avait pas mal de demandes à la rentrée. Du coup, il y a un nouveau créneau à 18h maintenant.
Donc là, en fait, c'est la dernière position de relaxation. On est toujours dans le noir et il n'y a pas un bruit dans la salle. On sent que tout le monde joue le jeu et que ça fait du bien à tout le monde.
Ah oui, je me sens beaucoup plus détendue. Ouais. Je suis arrivée avec la tension du travail de la journée. Hein. Ça fait du bien. Hein.
Est-ce que vous reviendrez?
Ah, je reviens la semaine prochaine. Hein. Oui, oui, c'est la première fois que je faisais, mais là, je suis contente. Hein. Je suis en forme.
Voilà, c'est vous qui le dites, c'est terminé. J'espère qu'avec cette émission, qui finit sur une pointe d'ASMR, vous voilà bien relaxé pour finir cette journée un peu trop pluvieuse à mon goût. N'hésitez surtout pas à réécouter le reportage d'Inès dans la rubrique podcast. On a testé pour vous sur radio-u.org. On me dit dans l'oreillette que la prochaine séance testée, ce sera du self-défense. Perso, j'ai vraiment hâte de l'écouter. Quant à nous, on se dit à demain même heure et avec, je l'espère, un studio rempli d'invités pour me tenir compagnie. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et tout de suite, le retour de la musique sur Radio U.